de 2022, Michel Bonnet. Bonjour, nous allons aujourd'hui essayer de nous plonger un peu dans l'ambiance, disons, culturelle ou sociale de l'époque de Raymond VII, de l'époque de la fondation de Cordes, pour essayer de comprendre de l'intérieur cette époque qui fut assez particulière. Et j'ai envie de la résumer d'un mot, qui n'est pas du tout un mot de l'époque, mais ça c'est pas grave pour aujourd'hui, sur le mot convivialité. Parce que on ne se rend peut-être pas assez compte à quel point les gens étaient très très liés les uns aux autres, que ce soit dans les milieux aristocratiques, si on peut dire, le milieu comtal de Raymond VII et les autres, ou que ce soit dans la vie quotidienne ordinaire. La convivialité est un élément qui est extrêmement important, en plus, pour comprendre la relation qu'il y a eu entre surtout ici dans le Midi, entre la population, disons, ordinaire, globale, on appellerait ça aujourd'hui les laïcs, et puis l'Église. Cette relation, on sait à quel point elle a été conflictuelle, puisque c'était dans l'ambiance de la croisade des Albigeois, donc l'hérétique, les hérétiques, les cathares, etc. Et justement, sur ce thème de convivialité, on peut mieux découvrir un peu ce qui se cachait sous ces relations qui n'étaient pas du tout un problème d'abord de théologie, de savoir s'ils étaient hérétiques parce qu'ils croyaient pas à X, Y, Z, mais c'est un problème social, un problème également politique, puisque la vie sociale et la vie politique, l'organisation de la vie sociale, c'est le champ de la politique. Et alors donc, ce mot de convivialité. Et je voudrais commencer par quelque chose auquel on ne pense pas assez, en partant du point de vue de Raymond VII, du comte de Toulouse, donc, parce que c'est lui qui a fondé Cordes, c'est la convivialité, ce que j'appellerais vertical. Quand on pense convivialité, on pense entre nous, relations horizontales, moi, mon voisin, une confrérie, un syndicat, une association, etc. Enfin, les gens qui vivent ensemble un peu dans le même endroit ou à la même époque. Et je voudrais souligner un aspect qui est la convivialité donc verticale, à savoir la relation que l'on vit avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous ont suivis. Bien sûr, pour un paysan ordinaire qui sait à peine qui était son grand-père et qui sait même pas s'il aura des enfants en vie après sa mort, cet aspect-là de la vie ne comptait pas beaucoup. Mais pour une certaine élite, pour la noblesse, pour l'aristocratie, pour ceux qui étaient au pouvoir, c'était extrêmement important. L'insertion dans le lignage était ce qu'il y avait de capital. Quand on commençait l'éducation d'un enfant à partir de l'âge de 3, 4, 5 ans, quoi, tout jeune, bon, on n'en était pas à l'époque de Macron qui décide qu'à partir de 3 ans, on va scolariser les enfants, mais déjà très, très, très tôt, on les éduquait, et on les éduquait comment ? En leur enseignant la généalogie, leur généalogie. Qui étaient leurs ancêtres. Et l'important, c'était de leur montrer qu'ils n'existaient qu'en relation avec cette lignée d'ancêtres. Ils n'étaient qu'un élément sur toute une sorte d'arbre généalogique. Ils n'étaient qu'un petit élément là-dedans. Et donc, cette convivialité verticale, c'était ce qui obligeait par exemple, le comte de Toulouse, à agir d'une certaine façon. Voilà. Donc, cet aspect-là était très important, d'autant plus que, à l'intérieur de chaque être, on se définissait par rapport à ses ancêtres. Or, un lien qui avait extrême extérieur très important, c'était le blason ou les armes que l'on portait. L'héraldique était le langage obligatoire de cette époque-là. Exactement comme aujourd'hui, l'informatique a amené... On n'imagine pas un jeune aujourd'hui qui ne connaisse pas le langage informatique. Moi, à mon âge, c'est totalement inconnu, ou à peu près, je le balbutie, si on peut dire. Mais quand je vois les jeunes, comment ils se débrouillent dans ce langage informatique, je comprends que c'est une autre... On est dans une autre époque. Eh bien, à l'époque de la fondation de Cordes, à l'époque de Raymond VII, le langage qu'il fallait absolument connaître, c'était l'héraldique. C'est-à-dire qu'à partir du blason, on avait un coup d'œil sur qui était quelqu'un, même un simple paysan qui était dans son champ ou qui ramassait des champignons dans la forêt, il voyait arriver un gars à cheval et était obligé de, au premier coup d'œil, de savoir si c'était un danger, si c'était un ami, si c'était un ennemi, etc. Et ça, il le savait à partir du blason. Le blason qui était d'abord une couleur, ou un jeu de couleurs, un jeu de lignes. Il y avait tout un langage à travers le blason pour se situer justement dans une lignée d'ancêtres. Et donc c'est à partir du langage héraldique, à partir du blason, on était, je dirais en quelque sorte, connecté. Vous voyez, il fallait absolument être connecté. Et aujourd'hui, un gars qui est pas connecté, il est complètement perdu. Hein. Et bien, à cette époque-là, c'était à peu près pareil.
CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
Nous parlions donc de la convivialité verticale, au sens où chacun est lié à un autre. On a du mal, nous, aujourd'hui, avec le développement qu'il y a eu au cours des derniers siècles de la personnalité, où l'individu est devenu quelque chose de prioritaire, où quand on pense aux droits de l'homme, on pense aux droits de chaque être humain, et le jeu moi, toi, c'est extrêmement important. C'est l'essentiel, je dirais, pour nous, dans la réflexion, dans la présentation de qui on est, etc. Au Moyen-Âge, c'était pas du tout ça. Au Moyen-Âge, c'était nous. Cette famille, cette lignée, ce groupe de maisons, ce quartier, l'individu n'existait que par rapport à ça. C'est tout juste s'il avait un nom. Bien sûr, il fallait qu'on le reconnaisse, alors on lui donnait un surnom. Mais d'une façon générale, ce qui comptait, c'était à quel groupe on appartenait. Et c'était évident, pas seulement au niveau religieux, où c'était très important d'être relié au groupe dominant. Et c'est pour ça que quand quelqu'un donnait l'impression de sortir de ce groupe, par exemple, tout d'un coup, il venait plus à la messe le dimanche, on disait « attention, c'est un hérétique, et qu'est-ce qui se passe ?» Le gars qui voulait sortir de Vendrac pour aller à Albi faire quelque chose, ou encore plus loin, s'il s'amusait à vouloir faire un pèlerinage à Rocamadour, il fallait qu'il ait une permission, un passeport, il fallait qu'il ait une permission de sortir. De la circonscription qui était, bon, pour les gens ordinaires, c'était essentiellement le curé qui s'occupait de ça, mais pour les autres, pour les chevaliers, ça se passait avec les seigneurs, mais on ne pouvait pas se balader n'importe comment. On pouvait être arrêté pour un oui, pour un non. Quand on était marchand et qu'on voulait aller à Carmo ou plus loin sur la route de Rodez, on passait des péages et c'était en fonction de l'endroit d'où on venait que le péage était plus ou moins important. Quand on voit les bagarres qu'il y avait, par exemple, entre les consuls de Corde, bon, ça, c'était au siècle suivant, mais enfin, on n'est pas 100 ans près, quoi. Oui, mais entre les consuls de Corde et les gars de Baraqueville, vous voyez, là-haut, sur le Ségala, à l'entrée de Rodez, parce que les Cordés avaient un droit de ne pas payer la portion de route qu'il y avait à tel endroit. Donc, c'était tout ça était très important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vivait profondément liés, reliés les uns aux autres. Et ce groupe auquel on faisait partie commençait par l'habitat. Les maisons, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, parce que nous, on visite Cordes avec de superbes, belles maisons en pierre et dont les murs ont 60 cm d'épaisseur. Mais lorsque Cordes a été fondée, ou si on allait dans les villages environnants, ou même en dehors des villages, dans les hameaux, parce que des villages, il n'y en avait pas beaucoup encore, hein, eh bien, la plupart des maisons étaient en bois. Et on réussissait à trouver quelques troncs d'arbres pour bâtir les poteaux principaux. On mettait des branchages pour faire un toit, et on en mettait quelques autres pour faire une cloison. Et là-dessus, l'hiver, pour avoir un peu plus chaud, on mettait de la terre glaise et ça faisait un torchis qui permettait d'être un peu enfermé. Mais les maisons qui étaient les unes à côté des autres comme ça, on entendait tout ce qui se disait chez le voisin. Il suffisait d'écarter un tout petit peu, de faire un petit trou dans le mur et hop, on voyait ce qui se passait à côté. Et d'ailleurs, lorsqu'il y avait un danger quelconque, lorsque dans un quartier des soldats arrivaient et qu'il y en avait un qui devait s'enfuir ou quelqu'un qui était recherché par les gendarmes de l'époque, on ouvrait un peu la cloison et le gars il passait dans la maison à côté et puis de là dans un genre de fenêtre et il pouvait s'enfuir. Vous voyez, on vivait vraiment les uns sur les autres, les uns à côté des autres. Ma vie privée, c'était pas un problème. Et on leur aurait dit qu'aujourd'hui on se mettait en transe, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec les compteurs Linky, parce qu'ils vont savoir tout ce que je fabrique dans ma journée, à quelle heure je prends mon bain, à quelle heure je mets en route la théière ou la cafetière. Les gars, ils auraient dit, enfin, ils auraient rien compris, quoi, hein, parce que la vie privée, c'était une illusion. C'était une illusion. Ça l'est peut-être aussi un peu aujourd'hui où ça le devient, parce que quand on voit comment, à travers nos ordinateurs, Facebook et tout le reste, on peut contrôler ce qu'on fait. Moi, il m'arrive de, je fais une recherche sur Google. Le lendemain, comme par hasard, j'ai 5 ou 6 messages où on me dit, Monsieur Bonnet, vous cherchez ceci, mais attendez, je vais vous dire où ça se trouve. Donc, vous voyez, c'est, on va peut-être de nouveau aller vers une conception de l'individu purement et simplement membre d'un groupe défini par sa capacité ou sa connexion, si on peut dire, avec les autres. Et donc revenons à cette époque-là, on n'en est pas encore au compteur Linky, on en est à 1200 et quelques, mais donc les uns, pas sur les autres au mauvais sens du mot, mais les uns vraiment ensemble faisant corps et trouvant du repos, trouvant du plaisir, trouvant de la tranquillité à cette relation. Parce que c'était d'abord vu comme une protection, au sens où quand on est plusieurs, on se serre les coudes, et donc il y a une solidarité qui se crée et qui est comme une sorte de mur, une sorte de rempart par rapport au danger extérieur. Voilà. Ça, c'est un des aspects de la convivialité. On se repose une minute avec un peu de musique.
Told me to leave that girl alone, but my mother didn't know what that little girl was putting down on me. Move, I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, in the mood. I'm in a mood for love.
Corde 2022, Michel Bonnet. Nous continuons à creuser un peu ce concept, si on peut appeler ça concept, de convivialité, ou disons cette façon de vivre. Donc, l'habitat était primordial et il a commencé. Évidemment, depuis le temps des cavernes, il y a longtemps que l'habitat avait commencé, mais dans le midi de la France, dans la région ici, donc le comté de Toulouse, et en plus ici dans la région de Cordaise, on a une évolution qui s'est faite à partir surtout du fin du Xe siècle, début du XIe siècle, où les maisons des agriculteurs, tout le monde était paysan à l'époque, étaient très dispersées et on commençait à les regrouper, soit que des familles ensemble accolaient leurs maisons les unes aux autres. Leur maison, j'ai envie de dire leur cabane, plus exactement. Hein. Elles étaient toujours en bois, ou à 90% en bois. Et donc, ce fait-là d'avoir 3-4 maisons créées, des relations donc nouvelles, c'est assez différent quand on a une maison toute seule dans un coin de bois, et puis qu'il faut sortir de là pour aller demander quelque chose à son voisin qui habite à 500 ou 600 mètres, vous voyez, ou à 1 kilomètre, et puis quand on a la maison qui est juste à côté, et à travers la cloison, on peut lui dire, non, tu te sers ta casserole, tu me la prêtes, ou j'ai quelque chose qui va pas, enfin, vous voyez, c'est cela. Et puis, à cette époque-là, on a commencé à avoir des... Les seigneurs, enfin, seigneurs entre guillemets, des petits seigneurs, hein. Faut pas imaginer le seigneur médiéval comme on l'a avec le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, vous voyez. Et c'est dans les groupements de quelques maisons, il y en avait un qui était responsable, qui avait été nommé quelquefois, choisi par un seigneur supérieur pour éviter qu'il y ait trop de gros problèmes et que donc faisait un peu la justice entre les quelques paysans qui étaient là quand il y avait un problème avec un voyageur, avec quelqu'un de passage, ben il fallait le résoudre, voilà. Donc il y avait comme cela des regroupements et les seigneurs ont essayé d'une part de fortifier leur maison, ils ont commencé à bâtir en pierre dans la région ici sur ce qu'on appelait sur des mottes, c'est-à-dire une élévation de terre plus ou moins naturelle, habituellement naturelle. On en voit quelques-unes par là, il y en a entre Vendrac, en allant vers Millars, des choses comme ça, on en retrouve des traces. Et là, il mettait une maison un peu plus forte que les autres, quelquefois une palissade avec un brin fossé autour, et ça les protégeait un peu. Et ils ont eu, à cette époque-là, donc autour du XIe siècle, ils ont invité des paysans, où ils ont invité quelquefois de façon un peu pressante, je dirais, vous voyez, à venir se regrouper près de la maison en leur disant, voilà, si vous venez, et quand il y a des brigands qui viennent, quand il y a des voleurs, quand il y a des soldats d'un seigneur quelconque qui se promène par là, que c'est dangereux, venez, je vous mets à l'intérieur des palissades, ou je vous fais rentrer dans ma tour, et vous serez à l'abri. Ben, en échange, évidemment, ça lui permettait de contrôler les gens, de savoir où est-ce qu'ils étaient, de les faire travailler en leur disant, tiens, il faudrait aller m'empirer ce bout de chemin, ou faudrait réparer telle chose ici, et les impôts en particulier, il y avait des tas de taxes pour ceci et pour cela, ça lui permettait de savoir, tiens, t'as un nouvel agneau dans ton troupeau, hop, il m'en faut un morceau, ou bien des choses comme ça, quoi. Et donc, mais il y avait une sorte de regroupement qui se faisait, autour des petits seigneurs. Et de la même façon, ça se faisait aussi dans l'Église. Parce que faut pas oublier que 9 fois sur 10, dans les campagnes, les paroisses étaient en fait des regroupements de chrétiens qui élisaient leur curé. C'était pas, les gars, ils n'allaient pas au séminaire, il faisait pas 5 ou 6 ans de théologie avant d'être ordonné prêtre et envoyé dans une paroisse. Pas du tout ça. C'est que les chrétiens entre eux, les gens entre eux, trouvaient quelqu'un qui était un peu plus sympa que les autres, un peu moins qui réfléchissait, qui était un peu plus sérieux. on connaît tous des choses comme ça, quoi, des gens, quoi. Et donc, on lui disait, bon, c'est toi qui t'occupes de nous rassembler le dimanche, tu vas nous, et puis tu vas nous parler un peu du bon Dieu, tu feras la prière qu'il faut, ou bien tu fais quelque chose quand il y a quelqu'un qui est mort, et tu vas faire une croix, etc. Et bon, et ces gars-là recevaient de temps en temps des formations de la part d'un évêque ou de la part de ce qu'on appelle un archiprêtre pour la façon de gérer cette église, de gérer ce petit groupe de chrétiens. Et donc à cette époque-là, au milieu du Moyen Âge, donc 11e, 12e siècle, les églises ont commencé aussi comme cela à rassembler les gens autour d'eux.
Zone d'écoute, fréquence, adresse des studios et contact antenne. Contact antenne, CFM. CFMradio.fr, tout CFM sur le net.
Tirons les cartes, changeons les noms, passons du mime à l'action. Une course folle, le coup de la panne, et tout ça pour vous. Madame, je n'entends pas l'appel de l'amour. Mis à part toi et ta voix de velours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? Prenons nos marques, déposons les armes et quelques claques. Au bout du compte, rien de personnel. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'épreuve de l'amour. Mis à part toi, sur la voie du secours qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais dois-je t'aimer quand même? De faire le mur, comme avant, un peu moins sûr. Gardons le cap puisqu'elle est presque belle. Et tout ça pour vous, mademoiselle. Je n'entends pas l'ivresse de l'amour. Mis à part toi, évidemment, qui hurle dans le vent. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Toi je t'aime, mais toi je t'aime. Mais devrais-je t'aimer quand même?
De 2022, Michel Bonnet. Nous parlions dans le cadre de cette convivialité qui est une marque de l'époque médiévale, enfin que je considère comme une marque de l'époque médiévale, nous parlions des rassemblements qui s'opéraient d'une part petit à petit autour de certains seigneurs et d'autre part autour de l'Église, autour de en ce sens que les gens qui formaient un ensemble un peu chrétien, si on peut dire, entre eux et qui avaient un prêtre, enfin, qui avait quelqu'un, un d'eux, un laïc, un gars marié. Les prêtres étaient mariés, il faut pas se faire d'illusions. S'ils n'étaient pas mariés, ils vivaient toujours avec une femme. Donc ils formaient une communauté et là, un point important de leur vie, c'était le rassemblement pour les enterrements, parce que dans cette relation aux ancêtres dont je parlais tout à l'heure, il y avait le respect du corps des ancêtres. Donc on les enterrait au même endroit, et on se rassemblait, on les enterrait directement dans la terre, il n'y avait pas des tombeaux, etc. Quoi, voyez. Et donc, on se rassemblait là, et quelquefois, quand on faisait une fête, par exemple, on décidait de faire la fête sur les tombes. Et comme ça, les ancêtres participaient, enfin, à leur façon, à la fête. On mangeait, on buvait, on dansait, voilà. Et pareil, pour prier, quand on se retrouvait, on le faisait. Et évidemment, assez rapidement, on a éprouvé le besoin d'avoir une cabane sur le cimetière ou à côté du cimetière pour se rassembler parce que soit le soleil est trop chaud, il faut de l'ombre, soit il pleut, il faut se protéger, voilà, où il y a du vent, etc. Et progressivement, on a eu comme ça des églises. Bien sûr, aujourd'hui, on visite les églises romanes du XIe, XIIe siècle, avec des grosses pierres, etc., etc. Mais ça, c'était, il y en avait, mais c'est rien à côté de la masse des petites églises qui se trouvaient comme cela dans un peu partout. Et donc, l'église, au sens où les évêques, etc., essayaient de ramener les gens, de les rassembler le plus possible autour, soit autour du cimetière, soit sur un endroit quand il y avait une petite église qui avait été faite, soit autour de cette église, de la même façon pour les avoir sous la main, hein, pour surveiller qui c'est qui venait prier, qui c'est qui venait pas, etc. Et cela, ça crée aussi des liens entre les gens entre eux se connaissaient, ils savaient comment, qui était malade, qui était mort, qui était qui se préparait à nous quitter, qui partait en voyage, en pèlerinage, etc. Et donc il y a eu ces rassemblements que les experts aujourd'hui étudient, les archéologues, pour retrouver les traces de ces créations de villages. Et il y avait quelquefois, c'est assez, on le voit dans beaucoup de villages du Midi, il y avait des chrétiens qui créaient une enclave tout près du château, mais qui s'appelait la Salvetà, c'est-à-dire la Salvetà, la Sauveté, en français, bien sûr, on parlait occitan à l'époque, vous vous en doutez. Mais pourquoi ? Parce que là, ils se protégeaient, non seulement en mettant, ils se protégeaient en mettant quelques croix autour du quartier qui était fixé, et là, c'est Dieu qui les protégeait, mais à l'époque, Dieu quand même faisait peur un peu à tout le monde, alors, donc, n'importe qui ne serait pas rentré, et donc ils se protégeaient, mais ils se protégeaient également par rapport au Seigneur, et qui n'avait pas le droit de venir faire ce qu'il voulait, trousser une fille du coin ou autre chose, c'était aussi une protection. Il y a comme ça des villages qui se sont créés. On a un troisième développement qui fait toujours partie de cette création de liens, cette connexion qui était essentielle à l'époque, cette convivialité, c'était autour des monastères. Il y a eu tout un mouvement au XIe siècle de chrétiens qui trouvaient que l'église ça allait pas du tout, que les curés ils cherchaient qu'à prendre de l'argent, enfin bref, il y avait toute une... On était très 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 contre le clergé, beaucoup, même si l'église essayait de se renouveler, elle faisait des réunions, des conciles et tout ce que vous voulez. Mais alors, il y avait beaucoup de gens, des gens ordinaires, qui abandonnaient tout, ils disaient « il faut vivre comme au temps des apôtres » et hop, ils se mettaient, mais littéralement, je dirais, à poil, au sens où ils ne s'habillaient que d'une peau de bête, rien d'autre, pieds nus, une peau de bête, et ils vivaient avec ceux qu'ils trouvaient dans la forêt, au bord d'un champ, ils vivaient très durement, très pauvrement, et pour eux, un peu comme vous savez, maintenant, on le voit si vous allez vous promener en Inde, par exemple, vous trouvez des gourous comme ça qui sont, vous voyez, on connaît ça. Et ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge. On a eu comme ça des implantations partout. Ces gars-là, automatiquement, ils avaient une certaine aura, je dirais, ils avaient, il y avait comme de la publicité intrinsèque qui se faisait. On disait, celui-là, il y croit. Non, il faut quand même que je vais voir comment il vit et je vais passer quelques jours avec lui ou quelques jours à côté de lui. Et puis, je vais parler avec lui et puis on va prier, on va manger ensemble. Je vais lui amener un poisson que j'ai attrapé dans la rivière à côté. On va se le griller, on le partagera tous les deux. Vous voyez, il y a comme ça des petites communautés de moines, de monastères qui se créer, et quelquefois ça devenait des gros monastères. Et autour de ces monastères, qui eux, évidemment, étaient obligés d'avoir des bâtiments plus ou moins importants, ou une grotte, mais bien fermée, il suffit d'aller voir au Camadour, c'est typique de l'évolution de ce qu'on a eu dans nos régions. Et donc, les gens aussi se regroupaient autour de ces monastères, parce que, d'abord, ça faisait un lien, ça faisait une protection. On se disait toujours, si on est près des saints, le bon Dieu va mieux me protéger. Et puis, on profitait aussi du fait que ces monastères, ils avaient besoin de gens pour travailler. Donc, on avait du travail en se proposant pour ceci et cela. Donc, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont créées autour des monastères. Donc, vous voyez, ces points d'ancrage que l'archéologie aujourd'hui trouve, que les experts étudient pour découvrir comment se sont formés nos villages et nos villes. Petit à petit, bien sûr, il y en a qui ont grossi, c'est devenu des vraies bourgades, des vrais villages, même des villes. Mais ce qui est important, ce qu'il faut absolument se rendre compte, c'est que ça signifie que les gens ne vivaient pas seuls. Ils vivaient véritablement les uns avec les autres. Et donc, il vivait une convivialité qui signifie toujours de l'échange. Mais on va y revenir dans un moment.
Yeah.
Corde 2022. Donc, vivre ensemble, je disais que ça signifiait un échange. Un échange pour tout. Un échange d'abord, parce qu'on se dit bonjour, parce qu'on se fait la bise, parce qu'on se connaît, on se rend service. Tiens, tu me gardes le bébé pendant que je vais chercher de l'eau à la rivière. Aujourd'hui, je peux pas envoyer le garçon avec les chèvres dans la forêt. Tu me le gardes, ou autre chose comme ça. On se rend des services en travaillant, en se donnant des travaux ensemble, etc. On prenait l'habitude. Quand vous êtes 5 ou 6 maisons et que dans chaque maison il y a un cochon, comme c'était à l'époque, hein, bon, ben c'est le troupeau de cochons, il y a un garçon ou deux ou trois garçons qui sont chargés de les garder, ils les amènent dans la forêt à côté. Les forêts, c'était un lieu de vie fondamental, hein, où il y avait tout ce qu'il faut pour vivre dans la forêt. Donc, on se rendait service comme cela pour tous les travaux, un échange de la force de travail, je dirais en termes un peu modernes. Vous voyez, oh, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y avait des syndicats de travailleurs qui se mettaient en place, et on en était loin. Mais voilà. Et puis, on se rendait service en se prêtant des outils. Parce que les outils étaient en bois 9 fois sur 10, mais dès qu'on pouvait avoir un outil en fer, c'était pour le paysan ordinaire, c'était une véritable aubaine, une richesse, et là on y faisait très attention et on pouvait se le prêter, un couteau, une pioche, des choses comme ça, c'était très important. Et évidemment, d'échanger des objets, d'échanger des services comme cela, ça crée une ambiance un peu sympathique. C'est parce qu'on est copains les uns avec les autres. On échange finalement de la bonne humeur. On échange de la joie. On échange des histoires pour se faire rire. On se dit tous les potins du coin. Parce que dès qu'il y avait un événement, la moindre chose, un cheval qui a perdu son fer, c'était un événement. Il fallait le raconter. Et de là, on se rappelait des histoires du temps jadis. Et on était parti pour passer des fois des heures et des heures à passer du bon temps parce qu'on n'avait pas la montre au poignet pour se dire attention, vite, il faut se dépêcher, on ne sera pas à l'heure pour le repas. Donc, tout cet échange, ce partage de tout ce qu'on avait et qui était le partage de la joie de vivre. J'insiste là-dessus parce que c'est véritablement le ciment de la société à cette époque-là. On en a parlé dans d'autres émissions, au niveau de l'aristocratie, avec le monde des troubadours, qui était très lié, tourné vers la femme, etc. Mais cette convivialité que l'on voit vivre à travers le monde des troubadours et la courtoisie, la société courtoise, aujourd'hui j'essaie de la regarder au niveau le plus bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire chez les paysans qui faisaient 90% de la population. Hein. Et donc, c'est très important qu'en profondeur, on était très liés les uns aux autres, ce qui signifie une chose qui est capitale pour comprendre le Midi, l'Occitanie médiévale, qui était basée sur la tolérance. On s'acceptait comme on était. On n'avait pas des structures où on n'aimait pas des structures qui imposaient une façon de voir, une façon de faire, une façon de penser. Et vous sentez que cette tolérance vis-à-vis de des gens qui étaient un peu différents, il y a un boiteux, bon, ben, il est boiteux, celui-là, il est borgne, bon, il est borgne, mais on peut quand même vivre avec lui. Et même le lépreux, bon, ben, on lui trouvait le lépreux, enfin, on ne savait pas si c'était un lépreux ou pas, mais quelqu'un qui n'avait pas un aspect tout à fait normal. Même le juif, bon, ben, dans la mesure où il n'était pas, où il restait en ville et il ne nous prenait pas d'argent, on l'acceptait, puis on s'en remettait à quelqu'un plus pour gérer ça. Mais enfin, il y avait, fondamentalement, dans le Midi, on a une marque de tolérance. Ça vient sans doute de ce que le soleil est le même pour tout le monde, quoi, vous voyez. Mais vous sentez qu'avec ça, on s'achemine, et on en reparlera bien sûr, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur un problème avec l'Église de cette époque-là, et qui se dit qu'elle a au-dessus d'elle Dieu qui a tout décidé, qui donne la vie à tout le monde, et que par conséquent, il faut que tout le monde marche droit comme le veut Dieu, c'est-à-dire comme le veut l'Église. C'est-à-dire que, d'un point de vue des gens ordinaires, elle est foncièrement intolérante. Elle est absolument à l'opposé de cette situation où, si quelqu'un sort du chemin battu, immédiatement, on dit, ça y est, c'est un hérétique, il est condamné, il n'ira pas au ciel, et ça va... Donc le mieux, c'est de le brûler pour que ça gêne pas le paysage. Vous voyez, on y reviendra, ce sont des problèmes absolument fondamentaux, mais ce dont il faut bien se rendre compte, que ce sens de la tolérance, de la convivialité, de la vie ensemble, ça fait partie de la définition de l'être humain au Moyen-Âge, on peut pas s'en passer, et si on oublie ça, on vient dans les élucubrations du monde moderne. Je vous dis à une autre fois, c'était Corde 2022. Au revoir.
Now listen up. Ooh.